Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Isabelle.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, 2 heures d'actu pour tout savoir et mieux comprendre notre monde. À la une, un royaume désuni qui n'a plus de reine et bientôt plus de première ministre.
Après 44 jours seulement, Liz Truss démissionne déjà. Qui pour la remplacer? Eh bien, figurez-vous qu'on reparle d'un certain Boris Johnson.
À suivre aussi, les appels de la famille de Lola n'ont pas été entendus.
Ses parents refusaient toute récupération. Opération politique après sa mort, c'est raté. Le RN et les soutiens d'Éric Zemmour manifestent ce soir.
Dans RTL Soir également, un fil rouge. La voiture RTL part en vacances sur l'A6. On défriche pour vous l'autoroute du soleil avec cette question. Est-ce qu'il y aura de l'essence pour les congés scolaires demain soir?
On s'intéressera également à Jean Castex avec ses réserves émises sur sa nomination proposée par l'Élysée à la tête de la RATP. Et puis on s'intéressera à vos pharmacies à la maison. Prière de ne pas faire de stock de paracétamol, c'est pas de la moutarde.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL à Amiens avec des écoliers évacués de leur cour de récré après des coups de feu des chasseurs. Et puis à 18h15, ce témoignage. Le papa d'Iris sera notre invité. Sa fille, 15 ans, a été mortellement fauchée sur une trottinette électrique à Lyon. Il appelle les autorités à réagir. 18h40, on va défaire le monde. 20 minutes d'infos autrement avec Cyprien Signé à la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Alors que la Grande-Bretagne est en pleine crise politique, vous le disiez, que fait le nouveau roi Charles III? Vous allez découvrir qu'un peu plus d'un mois après sa prise de fonction, il vit dans une totale indifférence. Au menu également, la Coupe du Monde de rugby féminin qui peine à exister et le triple champion de France de Monopoly.
Eh bah tiens, 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Herbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain.
Un temps bien pluvieux entre le Languedoc, les Alpes du Nord et le Jura.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier. Marion Calais.
Elle a donc enterré une reine, vu un nouveau roi prendre ses fonctions, fait trembler l'économie de son pays et tout cela en seulement 44 jours. Liz Truss n'est plus aujourd'hui la première ministre britannique.
Et oui, démission annoncée en début d'après-midi.
Étant donné la situation, je ne peux pas accomplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc parlé à Sa Majesté le roi pour lui notifier que je démissionne de mon poste.
Bonsoir Marie Billon.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. Vous nous avez raconté ces derniers jours les concessions, les volte-face de Liz Truss sur ses mesures budgétaires, son nouveau ministre des Finances. Tout ça donc n'a pas suffi.
Et non, elle espérait que ces concessions soient assez pour la maintenir en poste, mais en fait son mandat était vidé de son sens, puisque toutes les promesses sur lesquelles elle avait été élue, eh bien elle a dû les annuler. Et ses erreurs n'étaient pas que politiques, puisque son mini-budget va coûter cher aux Britanniques pendant des mois, voire des années. S'ajoute à ça une gestion catastrophique d'un parti certes devenu ingérable, mais les députés conservateurs ont au moins réussi à se mettre d'accord sur une chose, ils ne voulaient plus de Liz Truss.
Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer, chère Marie?
Eh bien, il y a une élection interne au Parti conservateur, une autre, et oui, alors pas sur 2 mois, hein, comme cet été, ce sera sur une semaine seulement. On saura qui sera là où le nouveau Premier ministre vendredi prochain, le 28 octobre. Ce sont là encore les conservateurs qui vont se choisir une nouvelle tête qui prendra les rênes du gouvernement de facto. Et le grand favori pour l'instant, c'est Boris Johnson. Eh bien oui, le Premier ministre évincé cet été pourrait faire son retour comme candidat de l'unité.
Incroyable, il revient par la fenêtre Boris Johnson. Mais ça veut dire qu'il n'y aura donc pas d'élections anticipées, on garde un Premier ministre conservateur.
Non, les conservateurs gardent le mandat qu'ils ont gagné sous Boris Johnson en 2019 et ils peuvent le conserver jusqu'en 2024 tant qu'ils arrivent à former un gouvernement dans les prochains jours. Tous les partis d'opposition, bien sûr, appellent à une élection nationale pour qu'on n'impose pas aux Britanniques un troisième chef de gouvernement en moins de 4 mois sans qu'ils aient leur mot à dire. Mais les conservateurs perdraient cette élection. Alors bien sûr, ils font tout pour éviter ça.
Merci pour ces explications, Marie Billon. À Londres, pour RTL, Emmanuel Macron a dit espérer un retour rapide à la stabilité pour le Royaume-Uni. Le président américain Joe Biden promet, lui, de poursuivre une étroite coopération avec Londres.
RTL Soir.
Un hommage demain, des obsèques lundi, la discrétion et le deuil pour la famille de Lola. Et pendant ce temps-là, l'agitation politique.
Autour de cette obligation de quitter le territoire non suivi d'effet pour la meurtrière présumée de l'adolescente, 2 rassemblements dans une demi-heure, minute de silence du RN devant l'Assemblée nationale et manifestation place d'Enfer Rochereau à Paris à l'appel de proches d'Éric Zemmour.
Vous êtes sur place pour RTL, Thomas Després, bonsoir.
Bonsoir.
Cet appel a-t-il été entendu ?
Eh bien, pour le moment, le rendez-vous est donné à 18h30. Il n'y a donc pas grand monde autour de moi. En tout cas, presque autant de CRS dans le quartier que de manifestants. Ils ne sont pour l'heure qu'une grosse centaine autour de moi. Une estrade a été installée pour accueillir tout à l'heure les discours. Un écran géant également. On peut y lire sur fond rouge « Rassemblement pour les victimes », mais nulle part le prénom de la petite Lola, pourtant à l'origine de cette manifestation. En revanche, on trouve ici des slogans sur des pancartes qui ciblent directement Emmanuel Macron et son gouvernement. Pour ce qui est des personnalités, pour l'heure, aucune figure politique connue. En revanche, tout le banc et l'arrière-banc de la Zemmoury a fait le déplacement. Plusieurs salariés de sa campagne et de son parti sont présents aujourd'hui.
Oui, Éric Zemmour et ses proches qui tentent ces derniers jours, Thomas, de surfer sur l'indignation provoquée par le meurtre de Lola.
Oui, pour lui, ce drame est la conséquence directe de l'action politique d'Emmanuel Macron. Alors, l'ancien candidat d'extrême droite n'a pas cessé les messages sur les réseaux sociaux ces derniers jours, allant même jusqu'à faire acheter par ses proches des noms de domaine avec le prénom de la jeune fille tuée. Éric Zemmour qui jure n'avoir rien à voir dans l'organisation de ce rassemblement ce soir.
Thomas Desprez, place d'Enfer Rochereau pour RTL.
18h, 19h15. RTL Soir.
18h06. Les premiers départs, c'est demain. Mais est-ce qu'il y aura du carburant pour partir ? Avec 24 heures d'avance, RTL vous ouvre la voie ce soir de la route des vacances.
Avec vous, Arthur Pereira, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez donc quitté la rédaction de RTL, ici à Neuilly, avec un réservoir à moitié plein tout à l'heure, direction le sud, via l'autoroute du Soleil. Jusque-là, vous avez réussi à faire le plein ou pas ?
Eh bien oui, et maintenant mon compteur affiche précisément 681 km d'autonomie. Il m'a suffi de rouler moins de 20 minutes sur l'axe routier, arrivé à la pompe, une seule voiture devant moi, moins de 5 minutes d'attente pour remplir mon réservoir. J'ai ensuite continué mon chemin sur la nationale et là, la pénurie de carburant continue de se faire ressentir.
Donc c'est plus simple sur les autoroutes, c'est plus compliqué sur les nationales. Tout le détail de votre périple tout à l'heure à 18h30 dans les dessous de l'actu, vous nous direz où faire de l'essence, où on peut trouver l'or noir en ce moment. Au-delà de la Bourgogne où vous vous trouvez à l'instant, Arthur, comment ça se passe ailleurs ? C'est un peu la question. On va essayer de dessiner la carte de France maintenant du carburant. Ça s'améliore, Arnaud Touche ? Moins d'une station sur cinq désormais en difficulté ce soir.
Oui, 17% des stations-service sont en difficulté au niveau national. C'est bien mieux qu'en début de semaine. Lundi, on frôlait quand même les 30%. Les camions-citernes pourront d'ailleurs continuer à circuler ce week-end aussi. Les principales difficultés se trouvent toujours en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France. En revanche, ça va bien mieux en Bretagne avec seulement 4% des stations touchées, c'est trois fois moins qu'en début de semaine.
Une question aussi, Arnaud, sur les difficultés ces derniers jours pour trouver du sans-plomb. Comment ça se fait ?
Alors la raison, en fait, elle est assez simple. Les cuves de stockage sous les stations chez Total Energy sont plus petites pour l'essence, donc le sans-plomb, et celles pour le diesel sont beaucoup plus grandes. Et la raison est simple, car en France, l'année dernière, plus de 6 voitures sur 10 roulaient au diesel. Elles sont donc en majorité. Les stations s'adaptent au marché. Voilà pourquoi il y a plus de diesel disponible que de sans-plomb en station.
Et notez que ce soir, deux sites de Total Energy sont toujours en grève. Celui de Gonfreville en Normandie a même reconduit le mouvement aujourd'hui pour une semaine. Son nom a été proposé hier par l'Élysée, mais voilà, surprise, que la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique émet des réserves sur la nomination de Jean Castex à la tête de la RATP. Vous allez nous expliquer, Olivier Bost, bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi le problème pour la Haute Autorité ?
Alors, elle est d'accord pour le nouveau poste de Jean Castex, pour sa conversion professionnelle, à la condition qu'il ne parle jamais avec l'un de ses anciens ministres. Autrement dit, pas question de parler par exemple de métro, de bus ou de tramway avec le ministre des Transports, pas question de parler du budget de la RATP avec le ministre de l'Économie et pas question de parler des projets comme le métro du Grand Paris avec la Première ministre. Pourquoi ? Eh bien parce que Jean Castex pourrait chercher, figurez-vous, en pleine période d'ouverture à la concurrence, à favoriser son entreprise, la RATP.
Légèrement problématique donc, mais pourquoi de telles réserves ? Sur quoi elle s'appuie, la Haute Autorité ?
Eh bien sur la loi, tout simplement. La loi qui a fondé la Haute Autorité, qui en a fixé les missions, éviter tout conflit d'intérêts. Et qui a voté cette loi ? Eh bien ce sont les députés et les sénateurs. En 2013, après l'affaire Cahuzac, la moralisation de la vie publique, la transparence ont ainsi créé des situation absurde.
Bon, alors, il va se passer quoi maintenant ? Il va devenir patron du métro ou non, Jean Castex ?
Alors, des députés et des sénateurs vont auditionner le 9 novembre Jean Castex. Ils ne manqueront pas de l'interroger sur sa situation très particulière, mais voilà, il faudrait que 3/5 des votants s'opposent à sa nomination. C'est improbable, d'autant que l'ancien Premier ministre est apprécié, sauf à ce qu'il renonce. Jean Castex sera donc nommé à la tête de l'entreprise des transports en Île-de-France, 70 000 employés, mais sans pouvoir parler avec le gouvernement.
Olivier Bost, merci.
C'est assez cocasse. Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec cet appel au bon sens. Arrêtez de stocker du paracétamol. À tout de suite.
Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir. Pas de stock à la maison, pas plus de deux boîtes sans ordonnance, prière de ne pas surconsommer le paracétamol.
L'agence du médicament a fait ses recommandations aux patients et aux professionnels. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu pour RTL dans une pharmacie du 13e arrondissement de Paris. Un objectif de ces recommandations, que chacun puisse trouver son compte à l'approche de l'hiver.
L'œil rivé sur son écran d'ordinateur, Christine Beer scrute son stock de paracétamol.
Les gélules sont vraiment très en tension. Donc là, je n'ai plus de boîte dans cette marque-là. Donc il va falloir que j'aille voir un autre fournisseur.
Produit trouvé sous une autre marque, en effet, de quoi tenir une dizaine de jours. Pendant ce temps, au comptoir, ce trentenaire règle ses deux boîtes de paracétamol en comprimé et il le reconnaît volontiers.
J'en ai besoin pas des deux boîtes forcément, parce que je fais 4 par jour, mais avec ça, j'en ai pour à peu près un mois, ouais, je pense. Un petit peu de stock, ouais. Et comme ça, ça m'évite de revenir toutes les semaines.
Pour les patients avec une prescription, les consignes ne vont pas changer grand-chose.
Quand on a des ordonnances, de toute façon, nous aussi, de tout temps, on demande toujours au patient ce dont il a besoin. Donc là, on va faire la même chose, de façon peut-être un petit peu plus dirigée.
Et la pharmacienne a un message à faire passer.
Qui viennent nous prendre deux boîtes aujourd'hui et deux boîtes dans 3 semaines, c'est mieux que d'en acheter 4 aujourd'hui. N'ayez pas de crainte, on a vraiment de quoi faire pour soigner tout le monde. Ayons du bon sens, je pense que ça nous aidera beaucoup.
Voilà, l'appel du fond du cœur de cette pharmacienne, hein, pas de pénurie de paracétamol, mais un appel au bon sens. Donc enfin, plus cher qu'une boîte de paracétamol.
535 000 ici. J'adjuge.
Adjugé, 535 000. Le squelette de Zéphyr, dinosaure âgé de 150 millions d'années, vendu aujourd'hui aux enchères à l'hôtel Drouot à Paris.
Simon Marseille, vous avez suivi la vente pour RTL. 535 000 euros hors taxe, 670 000 TTC. Mais qui donc a acheté cet iguanodon?
Eh bien, pour le moment, on ne sait pas. Un seul indice, il n'est pas européen. En tout cas, cet acheteur a de la place dans son salon puisque le squelette mesure jusqu'à 3,25 m de long. Une pièce exceptionnelle d'après Alexandre Gicello, commissaire priseur.
C'est un dinosaure qui avait la caractéristique de pouvoir courir jusqu'à 25 km/h. Et donc, on lui a donné une position de course. Il est très facile de trouver des plaques avec des fossiles à l'intérieur de dinosaures, mais beaucoup plus rare de les trouver dans ces conditions d'exposition.
Un squelette vieux de 150 millions d'années, mais découvert récemment par les archéologues. Jaco Briano, expert en paléontologie.
Les dinosaures, ils étaient retrouvés en 2019 aux États-Unis, au Colorado. Et la ville la plus près, c'est un tout petit village, une town, qui s'appelle Dinosaur. Donc c'est vraiment le cœur du lieu de découverte des dinosaures aux États-Unis.
C'est complètement insolite.
Oui, c'est tout à fait insolite, mais pas pour cette région.
Ici, à l'hôtel Drouot, il y a aussi des curieux venus contempler Zéphyr, à l'image de Nicolas qui accompagne ses deux filles.
Les enfants ne pensaient pas qu'on pouvait voir un vrai dinosaure entièrement reconstitué à la vente. Et pourtant, il est là, ils l'ont vu en vrai, ils étaient impressionnés. Ouais.
Vous l'installeriez dans votre salon?
Si j'avais la place, je pense, ouais.
La salle d'enchères était pleine à craquer cet après-midi. La vente, elle, aura duré 4 fois plus longtemps que prévu.
Mais je ne sais pas chez vous, mais chez moi, dans le salon, ouais, le dinosaure aurait un grand succès.
Simon Marseille, Hôtel Drouot à Paris pour RTL. Merci Marion. Le temps pour demain. Peggy, nous sommes toutes oui.
Gris et humide entre le sud-ouest, le nord-est et les frontières de l'est, avec de fortes pluies toute la journée entre le Jura, le Languedoc et également les Alpes. Et on note que l'Ardèche est en vigilance orange pluie, inondations et crues, donc ça va durer jusqu'à demain au moins. Soyez extrêmement prudents. Sur un grand quart nord-ouest, on aura des éclaircies. Et entre la Bretagne et les bords de Manche, les averses vont arriver avec les nuages dans l'après-midi, le tout sous des températures quasi stationnaires de 17 à 21 au nord et 20 à 27 au sud.
Merci beaucoup, Peggy.
La brigade RTL Soir.
La brigade RTL ce soir nous emmène à Amiens. Après cette grosse frayeur, écoutez bien, des enfants évacués d'une cour de récré à cause de coups de feu des chasseurs. On va poser 3 questions à Nathan Bocard sur place pour RTL. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui s'est passé concrètement mardi matin ?
Eh bien, il faut s'imaginer, Julien, une cour de récréation bordée par les champs en périphérie de la ville. Et c'est dans cette cour que les enfants jouaient mardi quand soudain 5 coups de feu retentissent. Alors tout de suite, c'est la panique pour les élèves. Safa a 6 ans et elle n'est pas prête d'oublier ce moment.
Après le deuxième coup de fusil, il y a un enfant qui s'est retourné et qui a vu que c'était un chasseur. Après, ils ont tous couru. J'avais un peu peur si ça rentrait dans la récré, si ça faisait un coup de fusil sur mes copines.
Alors le personnel lui a réagi tout de suite pour amener tout le monde à l'abri dans l'école, mais certains enfants ont bien eu la peur de leur vie.
On imagine que les parents sont en colère.
Oui, ils dénoncent un comportement inacceptable de la part des chasseurs. Certains, il faut le dire, n'étaient qu'à quelques mètres de l'école. Alors, pour cette maman de 3 enfants, la pression n'est toujours pas redescendue aujourd'hui.
Bon, on a peur. On a tout simplement peur pour nos enfants. On se dit que les chasseurs étaient quand même à la grille de l'école. Un coup de fusil, c'est vite arrivé. Un accident, c'est vite arrivé. Donc, on a peur pour nos enfants.
Et parmi les parents, certains réclament même l'interdiction de la chasse en semaine.
Et les chasseurs, Nathan, ils ont refusé de parler à votre micro, mais vous avez pu discuter avec leurs représentants ?
Absolument, et selon lui, il s'agit d'un non-événement. Il reconnaît, je cite, que cela peut être impressionnant pour les enfants, mais selon lui, toutes les règles de sécurité étaient respectées. Et en effet, la réglementation autorise les chasseurs à se trouver à moins de 150 mètres des habitations. Ils peuvent même tirer, seule condition, ils doivent être dos au bâtiment. Qu'à cela ne tienne, la maire d'Amiens a réagi, elle publie dès ce soir un arrêté pour interdire la chasse dans ce périmètre de 150 mètres autour des zones habitées.
La brigade RTL à Amiens, merci beaucoup Nathan. Une petite pause et puis ensuite le papa d'Iris sera notre invité. Iris, 15 ans, mortellement fauchée avec son petit copain à Lyon il y a 2 mois. Elle circulait sur une trottinette électrique. Son père lance un appel aux villes. Il réclame des actes pour que sa fille ne soit pas morte pour rien. C'est un témoignage bouleversant de dignité. A tout de suite sur RTL.
Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez toujours RTL et notre invité maintenant lance un appel. C'est le papa d'Iris, cette adolescente 15 ans mortellement fauchée avec son petit copain sur une trottinette électrique. C'était il y a 2 mois à Lyon, fauchée par une ambulance sur l'un de ces engins en libre service à la location qu'on trouve un petit peu partout désormais dans nos villes. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Julien Cellier.
Il y a eu un émoi national après la mort de votre enfant. Vous demandez maintenant des actions et on va en parler. Vous vous présentez d'ailleurs comme l'héritier du sourire de votre fille.
Oui, ça me plaît bien que vous présentiez les choses comme ça. C'est vrai que la mort d'un enfant, c'est un caractère insupportable. Moi, je ne souhaite pas particulièrement partager mon chagrin. En revanche, je partage avec plaisir le fait qu'Iris était une fille formidable et avec beaucoup de ténacité, un sens aigu de la justice et un goût pour la vie très très marqué. Par conséquent, c'est quelque chose d'inattendu pour un parent de perdre son enfant prématurément. Et donc, je considère que je lui ai transmis des choses de son vivant et aujourd'hui, quelque part, dans cette mort, elle me retransmet, elle nous retransmet collectivement parce que c'est un accident, vous l'avez dit, qui a ému la France entière. Sa joie de vivre est peut-être quelque chose qu'on doit nous garder au quotidien, une espèce de confetti d'amour et de positivité qui, je pense, me porte aujourd'hui, et notamment à venir m'exprimer devant vous.
Alors, vous insistez notamment sur la nécessité maintenant de former, d'éduquer nos jeunes à cet engin qui a débarqué comme ça dans nos vies. À Lyon, par exemple, chez vous, la mairie a récemment interdit l'accès aux trottinettes désormais aux mineurs. Est-ce que c'est une première étape ?
Ça va évidemment dans le bon sens. Après, vous l'avez dit, c'est la ville et c'est une décision qui peut être finalement remise en cause à tout moment. Ouais. Donc ça reste très fragile. La loi cadre reste à l'échelle nationale de 12 ans, ce qui semble quand même une aberration quelque part.
Dès 12 ans, on peut conduire une trottinette aujourd'hui. C'est la loi cadre, effectivement.
Voilà, c'est ça, la fameuse LOM, loi d'orientation des mobilités, votée fin 2019 et qui, il faut le dire, ne tenait pas du tout compte des préconisations, des associations, donc ça doit nous interroger. C'est vrai que de se dire qu'un élève qui rentre en 5e au collège peut conduire un véhicule motorisé 2 roues sur la voie publique avec des faibles ou de aucune connaissance et n'ayant pas forcément acquis des réflexes. Quand on sait le poids des trottinettes, je ne sais pas Julien Cellier si vous savez combien pèse une trottinette.
30 kilos à peu près.
C'est 29 kilos effectivement, donc c'est considérable. Dans ces conditions, on voit bien qu'il y a un cadre très complaisant et que quelque part c'est la loi du marché qui semble avoir dicté jusqu'ici la réglementation. Et ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des morts, on va encore compter les morts si on ne fait pas quelque chose. Donc pour répondre à votre question, bien entendu la formation semble appropriée. Peut-être passer par l'auto-école, sûrement même. L'ancien BSR, maintenant permis AM, on l'impose aux 14 ans et plus qui vont aller sur des 2 roues motorisées. Je ne vois pas en vertu de quoi, sur des outils, les trottinettes électriques en l'occurrence, on ne le ferait pas. Sachant qu'en plus, les usages ponctuels que crée la location temporaire font que vous avez des gens qu'on jette sur la voie publique qui sont très inexpérimentés.
Très inexpérimentés et également à un âge où on a
pas forcément le sens du danger. Je ne sais pas si vous aviez eu cette discussion sur le danger d'une trottinette avec votre fille. C'est vrai qu'il, elle était avec son petit copain à deux sur une trottinette. Ce sont des scènes qu'on voit quasiment tous les jours aujourd'hui dans nos villes.
Scènes qui sont en plus, je pense, largement promues par les concessionnaires. On se rêve adolescent d'évasion, de liberté. Et d'ailleurs, et ça serait intéressant d'avoir des chiffres, je crois qu'ils ne sont pas négligeables de ce que j'ai pu savoir, sur la part de vrais déplacements et la part de, on va dire...
On s'amuse avec loisir, la trottinette.
Voilà, c'est voilà. Ça, ça s'appelle de la glisse urbaine ou du sport motorisé, ce qui peut, là encore, se comprendre. C'est-à-dire qu'à force de tenter les gens et les amener vers des choses, l'évasion, la liberté, le sentiment de toute puissance, assez souvent associé à cette période de la vie, là, en l'occurrence, on les flatte. Et donc, à un moment, il faut qu'il y ait une réglementation. Elle existe, elle est très large, je l'ai dit, mais de surcroît, elle n'est pas appliquée. Et ça, c'est beaucoup plus grave.
Puis, il y a un vrai problème de cohabitation aujourd'hui dans nos villes, entre ces trottinettes, ces vélos, ces scooters, ces voitures et ces piétons. On constate quand on est citadin à quel point la cohabitation chaque jour est difficile. Je crois que vous êtes retourné sur les lieux où votre fille a perdu la vie. C'est l'exemple type d'une zone accidentogène, où il y a déjà eu des accidents différents de la circulation, où la limitation de vitesse est mal indiquée, rien n'a été modifié en 2 mois.
Alors c'est extraordinaire. J'étais aujourd'hui au téléphone avec des habitants de cette rue, des retraités, qui ont mis en place un collectif pour essayer de faire pression contre la mairie parce qu'ils sont excédés. Ils voient sous leur balcon, sous leur fenêtre, des gens mourir. 3 morts en 5 mois. Moi, la mairie m'a dit, on va faire des études. Moi, les résultats des études, on les a. 3 morts en 5 mois, il me semble que c'est plus que suffisant pour dire stop. Je vais vous raconter une anecdote, Julien Cellier. Moi, cet endroit-là, je n'y vais jamais à vélo. Je le considère beaucoup trop dangereux. C'est une voie rectiligne qui sort d'une voie congestionnée, qui en plus est en descente et vous mène à l'autoroute. Donc en gros, c'est assez rapide.
On a le réflexe, on se dit on va accélérer. Voilà.
Vous sortez d'une zone 30 du Vieux-Lyon où on vous dit vous sortez d'une zone 30. Donc c'est très ambigu. Et là, vous rentrez dans cette voie et jusqu'à il y a quelques jours, c'est inouï, mais c'est vrai, vous n'aviez aucune verbalisation, aucun élément de ralentissement ou d'apaisement du trafic, c'est-à-dire type ralentisseur, etc. Et vous n'aviez aucun panneau de signalisation. Vous êtes pourtant en zone 30, et là vous avez partout peint sur le sol, dans la voie des bus, des vélos. Donc c'est tout de même extraordinaire. Donc pas de panneau, ni de marquage au sol. Il aura fallu 45 jours pour que la mairie retrouve, je suppose, pardonnez mon ironie, mais le bon pochoir avec un 30 dessus pour que ce soit fait. C'est tout de même aberrant. C'est-à-dire qu'on incite des gens à se rendre sur cette voie en leur disant « Allez-y, c'est une voie de transport doux, soyez rassurés. » Et finalement, on se rend compte que c'est une voie accidentogène. Moi, j'appelle ça les couloirs de la mort. Moi, jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un de modéré. J'ai eu un ton très modéré dans mes premières interviews. J'ai laissé le temps pour bien laisser l'émotion passer. Il y a eu le temps des funérailles. Il y a eu le temps de la réflexion. J'ai pris contact avec, je pense, l'ensemble des associations concernées. Ouais. Il y a un moment où ça n'est pas acceptable. Donc il faut que les gens s'approprient ce sujet. Et il faut dire stop, mettez des panneaux. On doit protéger les plus vulnérables. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Et je peux vous dire que ma fille serait toujours en vie si la loi était appliquée.
Vous dites, je ne veux pas que ma fille soit morte pour rien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous écoutent ce soir? Prévenez vos enfants, mettez-les en garde. Emparez-vous du sujet, discutez-en avec les élus.
Bien entendu, je dis, il faut que ça suscite quelque chose de positif. C'est la seule solution, quelque part, pour ressortir par le haut, si tant est qu'on puisse jamais, parce qu'on ne refera pas revenir ni Warren ni Iris, mais au moins qu'on puisse améliorer les choses, donc que les familles aient des conversations, que les gens se saisissent du sujet auprès de leurs députés, de leur maire, qu'on identifie dans les villes peut-être les zones de congestion, et puis peut-être qu'on ose poser la question de ces trottinettes, et est-ce qu'on peut réalistement les faire cohabiter? Je n'en suis pas sûr. On est tous conscients qu'il y a eu un regain de tension dans la circulation. Peut-être qu'il faut se limiter dans ces transitions à encourager le vélo sur des sites protégés, et à faire en sorte que cette transition ne se fasse pas trop vite. Vous voyez, si on améliore la respirabilité des villes au prix de vies humaines, là, il y a vraiment un problème, je pense.
Merci Bertrand, vous le papa d'Iris, d'avoir été ce soir notre invité ici en studio dans RTL Soir. On espère que votre appel, qui est très digne et nécessaire, sera maintenant entendu. Merci d'avoir été notre invité.
Merci de votre invitation. Merci.
Ce témoignage est à retrouver sur rtl.fr.
On va marquer une toute petite pause et puis RTL Soir va se poursuivre. On va continuer bien entendu à vous informer, à vous surprendre aussi. Il y aura vos dessous de l'actu. RTL a pris la route et tente de partir en vacances à 24 heures des congés scolaires. La route du Sud, est-ce qu'il y a de l'essence? On vérifie pour vous. Et puis laissez-vous tenter dernière. Ça va nous rappeler des souvenirs avec la comédie musicale Les Mystérieuses Cités d'Or. A tout de suite dans RTL Soir.
RTL Soir. Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
Bonne fin de journée, 18h31.
RTL Soir,
Julien Cellier, Marion Calais.
Et tiens, le rappel des trois actus à retenir en cette fin de journée dans RTL Soir avec vous, Marion Calais.
Ils ont jusqu'à vendredi prochain pour se mettre d'accord. Les conservateurs britanniques vont devoir se trouver un nouveau chef qui deviendra le ou la nouvelle première ministre. Liz Truss a démissionné aujourd'hui. Au sommet européen de l'énergie, Emmanuel Macron annonce qu'il recevra mercredi le chancelier Olaf Scholz sur fond de tension sur la réponse à apporter à la flambée des prix. Et puis deux sites Total Energy toujours en grève, 16% désormais des stations-service en difficulté.
Et le temps pour demain, Peggy.
Du sud-ouest au nord-est et aux frontières de l'est, un temps gris avec des averses et surtout des pluies soutenues toute la journée entre la façade est, le Languedoc et les Alpes. Et l'Ardèche est en vigilance orange, pluie, inondation et crue. Sur le nord-ouest, un temps beaucoup plus calme avec l'arrivée tout de même d'averses et de nuages entre la Bretagne et les bords de Manche. Dans l'après-midi, les températures de 17 à 21 au nord et 20 à 27 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
RTL part en vacances dans vos dessous de l'actu depuis Paris, direction le sud, donc sur l'autoroute A6. Est-ce qu'il y a de l'essence? Eh bien, on a voulu vérifier pour vous 24 heures avant les congés scolaires. Rebonsoir Arthur Pereira.
Rebonsoir.
Alors, c'est un peu le fil rouge ce soir. Vous avez quitté en début d'après-midi la capitale dans la voiture RTL et vous n'avez pas fait le plein à Paris parce que c'était beaucoup trop complexe.
Oui, j'ai vite lâché l'affaire. Plus d'une heure d'attente en moyenne pour mettre quelques litres de carburant. J'ai pu voir des voitures pare-choc contre pare-choc aux abords des stations-service d'Île-de-France. Alors je décide de prendre la route en direction de Lyon avec 426 km d'autonomie en espérant croiser une pompe assez rapidement pour faire le complément.
Et alors racontez-nous sur l'autoroute, parce que les concessionnaires nous expliquent qu'on pourra y faire le plein sans difficulté pour partir en vacances. Vous confirmez ?
Ah oui, tout à fait Julien, et ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ça. Moins de 5 minutes d'attente pour remettre de l'essence. Et cela pour les 5 stations-service où je me suis arrêté. Des stations quasi désertes, ce qui interpelle les automobilistes comme Camille qui s'est arrêté pour faire le plein de sa berline.
Incroyable, après 3 semaines de galère, c'était un miracle. À Paris, c'était affreux. Il n'y avait plus rien, il fallait aller en banlieue, faire 4 heures de queue. C'était très très pénible.
Et là, en combien de temps vous avez mis de l'essence ?
5 minutes.
Même constat pour Catherine, Victor et leur petit bichon blanc Booba installé sur la banquette arrière.
Ben non, justement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de l'essence sur l'autoroute. Franchement, je pensais qu'il allait y avoir la queue, et en fait, il n'y a personne.
Concernant le carburant, diesel et sans-plomb 95 à toutes les pompes, le 98 et le diesel premium, eux, se font plus rares. Il faut compter une station sur deux sur l'autoroute A6.
Alors Arthur, là en ce moment, vous êtes en Bourgogne. C'est une région qui est dans le rouge niveau essence. Vous êtes du côté de Chablis, donc vous êtes sorti de l'autoroute, bien entendu, pour visiter les vignes. C'est plus compliqué de trouver l'essence quand on est sur les petites routes ?
Ah oui, j'ai d'abord dû faire 30 km pour trouver une station-service. Arrivé à la pompe, plus que du sans-plomb 95, aucun autre carburant disponible. Pour les 3 prochaines stations, même constat. J'ai discuté avec Jeanne, l'une des employées, qui m'expliquait que la fréquentation avait été multipliée par 2 depuis le début de la crise. Livraison prévue demain matin, mais Jeanne le sait, dès demain soir, l'heure noire risquerait déjà de manquer.
Merci Arthur Pereira, la voiture RTL sur l'A6, direction les vacances. On défriche en quelque sorte la route du soleil avant les congés scolaires demain pour vous.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on va vous parler maintenant d'un spectacle dans RTL Soir qui va rappeler des souvenirs aux parents, qui va plaire aux enfants. Il s'installe pour plusieurs mois au théâtre des variétés. Ce sont les mystérieuses cités d'or. C'est la première fois que le dessin animé mythique de la fin des années 70 a le droit à une comédie musicale. Bonsoir Laurent Marsic.
Bonsoir.
Et vous l'avez vu pour nous.
Exactement. Comédie dans laquelle on retrouve tout l'esprit du dessin animé, toute la première saison pour être précis. C'était un vieux rêve du directeur délégué du Théâtre des Variétés et producteur du spectacle, Lénaïque Lebrun.
L'idée de réunir autour d'une œuvre à la fois les parents et les enfants nous semblait être une idée intéressante. Donc on a mis 2 ans et demi à obtenir les droits. Comme nous souhaitions que les parents retrouvent la Madeleine de leur enfance, effectivement, il était important pour nous de coller au plus au dessin animé.
Sur la scène du Théâtre des Variétés, ils sont 11 à incarner les héros de cette histoire. Une course au trésor, souvenez-vous, pour tenter de trouver les fameuses cités d'or. Car nous sommes au XVIe siècle, en piste, 3 enfants, Esteban, Zia et Tao, le régional de l'étape, et leur mentor et protecteur, Mendoza.
Je m'appelle Tao.
Moi, c'est Zia, et lui, c'est Esteban.
Et lui, il a un nom.
Estelle, incarnée par David Dumont, Zia, Cassiope Mayence et Alvaro Ruot dans le rôle de Tao. Pour tous les trois, c'est aussi un souvenir d'enfance.
Je suis colombien d'origine. Du coup, le fait de parler des Cités d'Or, bah, moi, ça me parle et ça me touche aussi quelque part.
Moi, c'est simple. En fait, je regardais les dessins animés quand j'étais tout petit bébé devant la télé, vraiment sur le canapé.
J'ai été élevée aux Cités d'Or. Je sais qu'au repas de famille, surtout chez ma tante, on chantait tout le temps le générique des Cités d'Or. Ah. C'était vraiment le rendez-vous de tout le monde.
Élevée aux Cités d'Or, ce générique qui forcément figure dans le spectacle, alors.
Je veux mon neveu.
Enfant du soleil, tu parcours la terre des ciels, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin.
Création de Robert Derriès, un des deux papas du dessin animé. C'est lui qui a eu l'idée de ce générique mythique, inspiré, tenez-vous bien, d'un mixage entre Maurice Ravel et Enrico Macias.
J'avais dans ma discothèque un 33 tours de Maurice Ravel, L'enfant et les sortilèges. Et dans L'enfant et les sortilèges, il y a un morceau qui me plaisait beaucoup, qui s'appelle Le Jardin, qui est un morceau avec des flûtes et un morceau un peu abstrait, comme ça, et qui évoque l'idée de mystère. Et ensuite, bah, pour le générique, pour la chanson, bah, quelque chose dans le genre Enfant du soleil, le soleil, quelque chose dans le genre un peu d'Enrico Macias.
Mon amour à moi, il est comme le soleil.
Vous connaissez le générique aujourd'hui, voilà ce qu'il a sorti avec mes instructions.
Enfant du
ça aurait fait une très bonne info pour briller pour ces brillants signes. Les mystérieuses cités d'or, chaque dimanche et pendant toutes les vacances scolaires. 90 minutes sans entracte. On voit pas le temps passer. Ils l'ont mis à 4 ans. Je mettrai plus tout ça à 7-8 ans.
Très bien. Théâtre des variétés dans le deuxième.
Oh là là,
que ça donne envie. On a envie d'y aller en famille. Merci beaucoup, Laurent Marsic. Dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. Oui. Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier, l'info autrement pendant 20 minutes. Bonsoir, les amis.
Bonsoir à tous.
C'est la crise au Royaume-Uni. Voilà. La première ministre démissionne. Et pendant ce là, qu'est-ce qu'il fait le roi Charles?
Pas grand-chose.
Allez, ben on décrypte ça juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.